Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877-827-2346.
Alors, vous le savez, on assiste à un boom immobilier absolument hallucinant. Il y a quelques mois, je cherchais justement là une maison ou un condo, puis tout ça, puis j'allais visiter, mais vraiment des trous, et on demandait des prix de fou. Hallucinant, les maisons se vendent 10 000, 20 000, 30 000 $ plus que la valeur en fait de la maison. Les gens sont prêts à acheter les yeux fermés. Mais sans inspection, sans rien, c'est complètement délirant. Nous allons en parler avec M. Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé responsable du programme en urbanisme à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Meloche.
Bonjour.
C'est très étonnant parce qu'on aurait, moi, j'aurais cru qu'en période de pandémie, au contraire, le marché immobilier s'écraserait. C'est absolument pas ce qui est arrivé.
C'est effectivement ce à quoi la plupart des spécialistes s'attendaient parce que le marché immobilier est nourri beaucoup par les mouvements internationaux, c'est-à-dire que le marché montréalais, entre autres, est nourri par l'immigration internationale. Donc, beaucoup de gens qui arrivent à Montréal de partout dans le monde, il faut les accueillir, ça prend des logements, puis c'est en croissance, donc il faut les construire, puis le rythme de production de ces logements-là, des fois, n'est pas assez rapide pour tout absorber. Avec la pandémie, on a fermé les frontières, donc on s'est dit, ben un des principaux déterminants de notre demande en logement vient de s'éteindre, donc la demande devrait ralentir. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que la demande n'a pas nécessairement ralenti. Les gens ont fait des choix de vie qui sont peut-être plus surprenants que ce à quoi on s'attendait. Et le ralentissement, disons, dans la production des logements a été important aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un problème qui, au lieu d'avoir été un peu atténué par la COVID, a été aggravé par la COVID.
Ben c'est ça. C'est comme si les gens se disaient, OK, j'ai pas le droit de voyager, j'ai pas le droit d'aller au restaurant, j'ai pas le droit de sortir, je vais être pogné à rester chez moi, mais tant qu'à rester chez moi, je vais m'arranger pour que chez moi, ça soit le fun. Et là, c'était la chasse aux appartements, la chasse aux maisons, et là, il y a eu une surenchère dans les prix.
Oui, puis c'est les maisons plus grandes, les chalets. Donc, il y a un réinvestissement qui a été fait dans l'immobilier. Les budgets voyage sont passés dans des budgets de rénovation. Les employés qu'on emploie pour la rénovation sont les mêmes qu'on veut pour la construction. Donc, tout ça met une sorte de pression sur le marché immobilier dans son ensemble et fait en sorte qu'au final, on se retrouve avec des prix qui sont en hausse parce qu'il y a vraiment une rareté là dans l'offre et les gens veulent bouger, sont prêts à payer pour bouger. Et l'offre semble pas être au rendez-vous à l'heure actuelle.
Ben c'est ça, mais un des dangers aussi, vous savez, quand on achète une maison, on se dit, bon, je vais rester là pendant un nombre d'années, puis je vais la revendre à profit. Quand je vais la revendre, la maison va avoir pris de la valeur. Sauf que quand tu achètes ta maison, puis tu paies 50 000 de plus que le prix qui était demandé parce que s'il y a une surenchère, ben je suis pas sûr quand tu vas revendre ta maison 5, 6 ans, 7 ans plus tard, tu vas nécessairement faire du profit dessus, là.
Bien, en fait, le profit sur les maisons est un peu virtuel. C'est-à-dire que tant qu'on est propriétaire, si vous avez l'intention de mourir dans votre maison en tant que propriétaire, vous n'allez jamais voir la couleur de votre argent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vendez une maison, c'est pour en racheter une suivante. Si vous rachetez dans le même marché, bien, vous allez être au même point. Donc, on n'encaisse jamais vraiment ce gain en capital-là, sauf quand on arrive en fin de vie et qu'on pourrait passer, disons, de propriétaire à locataire dans une résidence pour personnes âgées, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens qui le font jamais. C'est-à-dire qu'ils laissent la maison, même après le décès. Donc, ces gains-là, pour la plupart des gens, ça n'existe pas. Donc, là-dessus, le danger n'est pas très grand. Le danger, c'est plus pour des gens qui seraient dans un premier achat puis qui se retrouveraient avec des paiements qui sont très, très difficiles à faire puis qu'éventuellement, ils doivent revendre la maison pour se racheter plus petit ou pour retourner en appartement. Et là, ils sont obligés d'éponger une perte sur la valeur des maisons. Ça, ce serait si on a dépassé. Autrement dit, si les valeurs, on pourrait s'attendre à ce qu'ils diminuent dans le futur. Et là, pour l'instant, Là, je veux dire, personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît le futur. C'est sûr que les hausses des dernières années ont été très importantes, mais on n'a pas d'indication claire là, qu'on serait dans une sorte de bulle où les gens paieraient au-delà de la valeur réelle des maisons.
Alors, parce qu'on veut pas se retrouver comme en 2008, là, hein. C'est un peu le marché immobilier en 2008 qui a vraiment parti causer une grosse crise économique. Il y a des gens qui achetaient une maison qui n'avaient pas nécessairement l'argent pour l'acheter, mais on leur accordait des prêts, des hypothèques incroyables. Donc, les gens ont acheté des maisons. Après ça, se retrouvaient pris à la gorge.
Oui, mais pas partout pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, surtout en Floride, en Californie, par exemple, des endroits où les prix ont corrigé d'à peu près 25 %. On est 25 % de diminution sur les prix des maisons en quelques mois dans la crise immobilière qu'il y a eu, en fait, la crise des logements, pas des logements, mais disons la crise financière qui a suivi là la bulle immobilière aux États-Unis. À Montréal, à la même époque, il n'y a pas eu de baisse de valeur du tout. Donc, le marché n'a jamais corrigé à Montréal, c'est-à-dire que cette bulle spéculative-là n'a pas nécessairement affecté le marché montréalais. Et c'est toujours difficile d'identifier quand il y a une bulle et où il y a une bulle. Le seul moyen qu'on a de certifier qu'il y avait une bulle immobilière, c'est après qu'elle ait éclaté, quand on atteint le bas du baril à la fin, on dit « voilà ». Ça, c'était l'ampleur de la bulle. Mais il n'y a aucun autre moyen. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, les spécialistes ne s'entendent pas sur la question. Certains disent que peut-être une bulle. D'autres disent, ben, en même temps, les gens n'achètent pas des maisons pour les flipper. Ils achètent des maisons pour les habiter. C'est la raison pour laquelle les gens payent cher, c'est qu'ils ont vraiment envie d'habiter là. Donc, on n'est pas dans un marché spéculatif où les gens achètent des maisons hors de prix dans le but de faire un gain d'argent. On est plus dans un marché où les gens veulent absolument habiter un endroit et sont prêts à payer cher pour habiter là. Ce qui nous fait dire qu'ils vont pas revendre l'année prochaine. Donc, c'est pas le même type de décision. Donc, on n'est pas, c'est pas les banques qui donnent des prêts gratuits à n'importe qui veut s'acheter une maison hors de prix. On est vraiment plus dans un marché où il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller à certains endroits ou qui vont transformer, comme je dis, un budget voyage en budget chalet et qui vont venir mettre des capitaux dans le marché immobilier qui n'aurait pas été là autrement. Et là, ça vient exacerber une demande, mais c'est une demande avec un fondement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la plupart des spécialistes ne s'entendent pas nécessairement pour dire que présentement, on serait dans une bulle spéculative, parce que les types d'achats qu'on observe sont des achats généralement de nécessité.
Et M. Meloche, est-ce que vous êtes étouffé dans votre café quand le premier ministre dit qu'on peut trouver un loyer à 500 $ par mois à Montréal? Est-ce que vous...
Ben écoutez, je veux pas spéculer sur ce qu'il aurait dit ou pas dit. Oui. Peut-être qu'il s'est trompé dans l'interprétation de la question qui lui était posée. C'est sûr que le loyer médian à l'heure actuelle est plus autour de 1 300, si je me souviens bien, ou 1 400 $, et non pas autour de 500 $. Après, si vous êtes chambreur dans une petite chambre parce que vous êtes étudiant, tel que le premier ministre l'a dit, oui, selon moi, vous pouvez trouver des chambres à ce prix-là. Mais vous n'aurez pas grand-chose, ça, c'est certain.
Et vous êtes responsable du programme en urbanisme. J'aimerais vous entendre sur Griffintown. Comment vous trouvez Griffintown en tant qu'urbaniste?
Ben, Griffintown, c'est un endroit où je vous dirais que les promoteurs immobiliers ont été plus vite sur la gâchette que Ville de Montréal. C'est-à-dire que quand on construit un quartier, on veut s'assurer de construire à la fois les logements et les espaces publics nécessaires à ce que ces logements-là puissent avoir un bel environnement. Quand on a changé de zonage dans Griffintown, les propriétaires immobiliers étaient prêts à construire des logements, ils étaient rapides, ils voulaient y aller. Donc, c'est un quartier qui a émergé quand même assez rapidement. Puis sur le plan de l'offre de logements, c'est une très bonne nouvelle que d'avoir des logements comme ça qui sont construits en bonne quantité puis assez rapidement dans des quartiers qui sont souhaités par les gens qui cherchent des logements. Donc, Griffintown, sur le plan de la production de logements, c'est un exemple de quartier qui fonctionne bien. Après, je vous dirais que le fait que la Ville de Montréal ait un peu été en retard, c'est-à-dire qu'elle a mal anticipé la demande puis la capacité des producteurs à produire, ben les espaces publics n'ont pas été super bien provisionnés. On n'a pas tant que ça réfléchi de quartier, ce qui fait qu'on était un peu à rebours dans ce quartier-là, ce qu'on peut reprocher comme étant mauvais, mais moi, quand je vais dans ce quartier-là, je vois quand même des choses qui s'embellissent, qui vont de mieux en mieux. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un quartier qu'on aurait mal développé. Bien au contraire, je pense qu'il est bien localisé, puis qu'on a là une offre quand même assez abondante de logements. Beaucoup de petits logements, donc on peut espérer que dans le futur, il y aura aussi des logements de taille moyenne.
C'est ça, c'est con.
On est dans le marché, là, mais...
Montréal, c'est de plus en plus condo-ville, là.
Ben, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, là, des ménages de 3 personnes et plus, là, il n'y en aura pas plus dans 15, 20 ou 30 ans qu'il y en a aujourd'hui. Donc, si les ménages de 3 personnes ou plus occupent les mêmes types de logements dans 20, 30 ans que ceux d'aujourd'hui, on en a assez pour ces ménages-là. Par contre, des ménages de 1 et 2 personnes, ça explose. Donc, on a besoin de beaucoup de petits logements. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des ménages de 1 et 2 personnes qui habitent des grosses maisons unifamiliales détachées dans une banlieue parce que c'est ça qu'ils ont acheté il y a 25 ans puis ont envie de vivre là encore aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai que les familles rentrent dans les maisons des anciennes familles. Donc, on a un manque de logements pour les familles souvent parce que les petits ménages restent dans des grands logements. Alors que les grands ménages, eux, arrivent beaucoup plus difficilement à s'entasser dans les petits logements. Mais c'est pas faux de dire que la demande actuellement, elle va croître beaucoup plus rapidement dans les segments de marché qui sont petits ménages. Et c'est ce qu'on construit à Griffintown, entre autres, des deux chambres pour des gens qui vont être seuls ou un couple avec un enfant. Et on n'a jamais provisionné l'école dans le quartier parce qu'on a imaginé que les enfants iraient pas là. La vraie vie, ça se passe pas comme on pense. Il va y avoir des enfants dans ces quartiers-là, il va y avoir des choses qui vont se développer.
Et on vient d'allumer, là, on va dire, ils ont dit là, finalement qu'il allait avoir une école dans ce quartier-là, mais j'imagine si on construit autant de condos, c'est parce que ces condos-là se vendent et trouvent effectivement acheteurs. Très intéressant, monsieur Jean-Philippe Meloche, de vous avoir parlé. Merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir.
Merci, bonne journée.
Au revoir.